Comprenez-vous, Winston, l'originalité de cela? Évidemment, l'idée vient de Big Brother.
Au fond, vous auriez préféré rester fidèle à l'ancien langage, à son imprécision, à ses nuances inutiles.
Vous ne saisissez pas la beauté qu'il y a dans la destruction des mots. Savez-vous que la novlangue est la seule langue dont le vocabulaire diminue chaque année? Ne voyez-vous pas que le véritable but de la novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer.
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
À Boris Chardeau.
Chaque samedi à 19h sur France Culture, une page d'histoire, un récit, des archives mêlées à la bande-son correspondante. Voici Jukebox. Bonsoir à tous. Ce soir, c'était hier ou presque une histoire récente qui se conjugue encore aujourd'hui, mais dont on parlera peut-être un jour au passé, tant elle résonne tristement à nos oreilles contemporaines. L'avènement d'Internet, l'hystérisation des échanges, la toute-puissance des multinationales, les manipulations génétiques, le péril climatique. Retour ce soir, il y a tout juste 20 ans, lors du passage à l'an 2000. Ces grandes mutations de civilisation, un groupe de rock anglais allait, dans un virage esthétique, radical et électronique, en restituer l'âpreté et les dangers, avec une poignée d'albums, Kid A, Amnesiac et d'autres. Radiohead allait créer à ses incertitudes un écrin sceptique, contestataire, désespéré mais combatif. Ce soir, et soudain l'an 2000, Radiohead et le monde.
À deux pas de la bourse et de l'agence France Presse, voici le café le plus branché. À la carte, soda, sandwich et internet. Ici, on embarque pour un voyage virtuel tarifé, 60 francs de l'heure. L'heure du village global. On navigue en direct dans tous les ordinateurs du monde. Pratique de l'anglais indispensable. Cours d'initiation tout à fait recommandé.
En ce temps-là, l'humanité occidentale gérait plus ou moins sereinement la fin de l'histoire. La fin de l'affrontement des blocs et la victoire de l'idéal de la démocratie libérale. Il traînait bien, ça et là, quelques guerres en Afrique. Le chômage de masse continuait de prendre ses aises, mais le monde, pensait-on, cheminait vers le progrès. L'Europe vivait encore à 15, préparant l'avènement de l'euro. Le World Trade Center incarnait New York, c'était hier. Et pourtant, la distance qui nous en sépare paraît immense, comme la banquise sur laquelle chassent les ours polaires. C'était hier, le dernier souffle des années 1990. À cette époque, on disait « l'Internet » avec un L apostrophe et ça ne concernait qu'une infime proportion des gens. 100 000 foyers en France en 1996, trois fois plus un an plus tard, 500 000 en 98. On trouvait des cabines téléphoniques, grises en France, rouges en Angleterre. Les téléphones portables se diffusaient, certes, mais on ne les vendait pas encore comme des entités intelligentes. De fait, le modèle qui allait sortir du lot ressemblait à une petite coquille de plastique aux étroits boutons, mais à la durée de vie presque imbattable, ce qui nous paraissait l'essentiel. Lancé à la fin de l'année 2000, le Nokia 3310 allait s'écouler à plus de 100 millions d'exemplaires. Même si cette troisième révolution industrielle, celle des nouvelles technologies, malgré sa foi aveugle en elle-même, allait engendrer ses propres peurs millénaristes. Archives France Inter et RFI, 1998.
Une certitude pour l'an 2000, c'est dans un peu plus de 19 mois, et l'addition va être salée. La raison, le fameux bug de l'an 2000. Autrement dit, les ordinateurs du monde entier bloqués au 1er janvier 00, car le changement de date est illisible pour les logiciels. En l'an 2000, les ordinateurs risquent de reculer d'un siècle ou de se bloquer.
Au ministère de l'Environnement à Bonn, on ne veut prendre aucun risque, surtout après l'arrivée au pouvoir des écologistes. Une circulaire oblige les centrales nucléaires à prouver que les logiciels supporteront le passage à l'an 2000. Tous les ordinateurs devront être vérifiés pour éviter des pannes qui peuvent intervenir au niveau de la production d'électricité.
Du côté des pouvoirs publics néerlandais, on a pris le taureau par les cornes de façon très concrète depuis plus d'un an. Planning, méthode, délai à respecter, les qualités professionnelles les plus typiquement néerlandaises semblent se lancer des défis à elles-mêmes.
Votre voiture ou votre appareil vidéo pourrait bien ne pas fonctionner au XXIe siècle, mais ne comptez pas sur votre assureur pour régler l'addition. D'abord, il pourra faire remarquer que le constructeur aurait pu penser au problème un peu plus tôt. Ensuite, il n'a pas vraiment les moyens, en l'état actuel des choses, de mesurer le risque auquel il s'expose. Tout simplement parce qu'on ne sait pas encore quelle sera l'étendue des dégâts causés par le bug.
Everything in its right place, chaque chose à sa place, Radiohead, extraite de l'album Kid A, sorti à la fin de l'an 2000. Le bug informatique tant redouté du passage au nouveau millénaire n'avait finalement pas eu lieu. Pas d'accident nucléaire, pas de panne géante, pas Corraban. L'époque pourtant n'était pas au bout de ses peines. Issus de la classe moyenne britannique, les membres de Radiohead s'étaient rencontrés au lycée, une public school, autrement dit un établissement privé réservé aux garçons, situé non loin d'Oxford, au cœur de cette Angleterre de l'establishment, de la réussite et des sentiments contenus. En 1985, ces cinq-là, passionnés de musique, décident de former un groupe autour du chanteur Thom Yorke. Sa gueule d'écorché vif, due à cette paupière gauche tombante depuis une malformation de naissance. Il y a aussi le bassiste Colin Greenwood, son frère Johnny qui est guitariste, le batteur Phil Selway, ainsi qu'un cinquième larron, Ed O'Brien, également aux guitares. À l'heure où les autres lycéens écoutent surtout Iron Maiden, eux ne jurent que par la mélancolie de Joy Division. Ils se produisent les week-ends dans des pubs ou des soirées étudiantes. Après le lycée, tous ou presque poursuivent leurs études, comme Colin qui part étudier la littérature à Cambridge. Quelques années plus tard, leur groupe, baptisé On a Friday, signe avec EMI. Le label les incite à changer de nom. Ce sera finalement Radiohead, tête de radio, extrait des paroles d'une chanson du groupe Talking Head. À leur début, c'est un groupe de guitare assez classique. Leur premier album, Pablo Honey, sage et inégal, contient toutefois un titre qui les fera soudainement connaître du monde entier. Creep, l'histoire d'un pauvre R, convoitant le cœur d'une fille d'un milieu plus aisé et qui ressasse son dépit amoureux. J'aimerais être spécial, tu es si foutrement spécial, mais je suis un détraqué, je suis un barjot, qu'est-ce que je fous ici ? Ce Creep que rapidement Thom Yorke, à qui on associe ce personnage romantique, ténébreux et maladif, n'en peut plus de chanter pour plaire aux fans. Dans la foulée, un second album, The Bends, affine le style. Mais c'est en 97, avec OK Computer, leur troisième album, que Radiohead avait véritablement changé de dimension. Ça n'est plus un single, c'est une œuvre. OK Computer, album traversé de sublimes bourrasques lyriques et qui les propulse en orbite. Pourtant, là encore, le groupe vit mal la démesure de ce triomphe. Pendant des mois, il s'épuise de concerts en tournée promotionnelle. La saturation guette.
Better, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week. Getting on better with your associate employee contemporaries.
OK Computer, OK Ordinateur, qui ne renvoie pas encore à l'abrutissement délivré par nos assistants vocaux contemporains, mais qui dénonce l'usage, l'utilisation faite du progrès technique, l'asservissement des humains aux ordinateurs. Exemple dans cette chanson « Fitter Happier », logoré, déroulé par une voix de synthèse et qui, après avoir énoncé une série de conseils de bon sens, boire sans excès, faire du sport, manger sain, finit par virer dans une absurdité incohérente et inquiétante pour conclure « être calme, plus en forme, être plus sain et plus productif, un cochon enfermé dans une cage sous antibiotiques ». L'album distille le doute. Et si notre liberté de penser n'était qu'un leurre? Et si la multiplication des canaux de communication ne servait in fine qu'à propager une pensée unique? Radiohead est désormais un groupe majeur, suivi, scruté. Il se produit dans des salles surdimensionnées ou des stades de 80 000 places. comment dénoncer un système lorsqu'on y est intégré et aspiré comme un hamster dans une roue. Dans la foulée des derniers concerts d'OK Computer, les membres du groupe prennent 6 mois de vacances et début 1999, encadrés par le producteur Nigel Goldrich, ils se lancent dans l'élaboration d'autre chose, un futur album dont ils n'ont aucune idée préconçue, à part qu'il ne devra pas répéter la formule gagnante d'OK Computer. Trop facile, trop évident. Tom York, le chanteur et leader, voudrait explorer les rythmes, les textures, plus que les mélodies faciles. L'album sur lequel il planche remisera les guitares électriques au placard pour donner plus de place aux machines, aux claviers, aux effets sonores, mais aussi aux mutations civilisationnelles en cours.
Le 4 avril 1984, 6 heures du matin. Je commence mon journal. Je l'écris pour ceux qui ne sont pas nés de l'âge, de l'uniformité.
Nous avons la joie de vous annoncer que les prévisions du 9e plan ont été dépassées, notamment en ce qui concerne la production de la fonte. D'autre part, le ministère de l'Abondance a décidé de réduire momentanément les rations de chocolat. Dans quelques instants, vous pourrez assister aux 2 minutes de haine quotidienne.
La liberté, c'est de pouvoir dire que 2 et 2 font 4. Lorsque cela est accordé, le reste suit. Le parti finira par annoncer que 2 et 2 font 5, et il faudra le croire.
Extrait d'une adaptation sur France Culture du 1984 de George Orwell dans une réalisation de Jean-Jacques Vierne. À la fin du roman d'Orwell, on le sait, le personnage principal se retrouve broyé dans sa contestation du système, son humanité est démolie et son conditionnement l'emporte, le faisant énoncer que 2 et 2 font bien 5. Cette désagréable impression que les choses ne tournent pas rond, Tom York, le chanteur de Radiohead, en est pareillement saisi. Quelques années plus tard, dans l'album Hail to the Thief, il refera l'addition.
Meditation.
es-tu à ce point un rêveur pour tenter de redresser le monde ? Je resterai pour toujours chez moi, là où 2 plus 2 feront toujours 5. C'est le chemin du diable maintenant, il n'y a pas de sortie, tu peux crier, tu peux hurler, c'est trop tard maintenant. Tout ça parce que tu n'as pas prêté attention. 2 plus 2 égale 5. Radiohead, extrait de l'album de 2003, Hail to the Thief, autrement dit, salut au voleur, dans une chanson qui, selon certains, outre son clin d'œil orwellien, pourrait faire référence à l'élection de George Bush Jr. en l'an 2000, lorsque W avait accédé à la Maison Blanche avec 500 000 de voix de moins que son rival Al Gore. « Vous n'avez pas fait attention », répète à l'envi Tom York. Or, les dangers à guetter sont légion, de plus en plus, dans la modification des comportements imposés par la société de consommation. Cette fin des années 1990, l'influence pernicieuse des grands empires financiers mondialisés, l'omniprésence, la violence de leur communication, de leur publicité jusque dans les campus ou les écoles, commence à inquiéter. Une journaliste canadienne, Naomi Klein, fait publier à la fin de l'année 1999 ce qui constitue le premier manifeste grand public à se pencher sur la question. Son titre, No Logo, sous-titre, La tyrannie des marques. Une vaste enquête, fouillée, étayée, se penchant sur la manière dont les marques cherchent non plus à s'adosser à des cultures, mais à dénicher les futures tendances pour les endosser, les avaler, les incarner.
Now, having an idea alone,
Donc, avoir une idée. Ce processus d'avoir une idée a un effet sur la culture. Parce qu'en fait, le bien le plus précieux qu'on ait, c'est une idée. Une idée neuve, quelque chose de puissant. En fait, toutes nos idées les plus puissantes, nos idées politiques, sont exploitées comme un minerai. Voilà, j'en ai trouvé une bonne. Tiens, démocratie. La démocratie pour IKEA. Ça, c'est le leur. Moi, je parle à ces gens dans les agences de pub et ils me disent d'un ton très sérieux, l'identité de IKEA, c'est la démocratie. Donc, il y a vraiment une relation prédatrice, surtout envers les jeunes. Parce que ce que veulent les marques, en fait, c'est une identité qui va résonner auprès des jeunes, parce que c'est leur manière d'avoir des adeptes les plus loyaux. Ce que veulent les marques, c'est des adeptes qui vont suivre fidèlement, comme ils suivraient une star de rock ou une star de cinéma, qui vont se faire tatouer le logo ou se le faire tondre sur le crâne. Et c'est ce qu'ils font. La virgule de Nike est le tatouage le plus populaire en Amérique du Nord. Il y a une nouvelle activité relativement récente, depuis 1993, c'est celle des chasseurs de cool. Alors, ils se baptisent eux-mêmes des anthropologues urbains. Ce qu'ils font en gros, c'est espionner les jeunes. Ils vont dans les écoles, dans les boîtes, dans les manifestations sportives. Ils interviewent les jeunes, comme vous faites pour moi maintenant, mais ils collectent l'information et ils la vendent à Nike, ils la vendent à Levi's. Et ils essayent de trouver des schémas de comportement. Alors, ils ne leur demandent pas leur marque préférée, ni ils leur demandent en fait leurs désirs les plus profonds, leurs valeurs importantes. De manière à pouvoir les transformer dans l'identité d'une marque.
Nos logos de Naomi Klein, ici interrogée en 2001 sur France Culture au micro de Ruth Stegassi. Ce livre, Tom York l'a lu très tôt, dès sa sortie. L'album sur lequel lui et les autres planchent porte d'ailleurs ce nom comme titre de travail.
She ate me up.
Les mouvances altermondialistes connaissent alors un essor spectaculaire. C'est l'époque des contre-sommets de l'OMC, comme à Seattle en avril 2000, ou bien à Prague en septembre de la même année, en marge des pourparlers du FMI. Thom Yorke s'engage aux côtés de ces contestations. Lui et ses acolytes s'évertueront, les années suivantes, à mettre en pratique une forme de résistance, décidant par exemple, lors de la tournée qui suivra la sortie de l'album Kid A, de s'émanciper du modèle économique des tournées et des tourneurs, produisant eux-mêmes leurs propres concerts à la manière d'un cirque itinérant, utilisant deux immenses chapiteaux débarrassés des bannières Coca-Cola ou autres. Mais on n'en est pas encore là. Musicalement, on l'a dit, l'accouchement de l'album en studio est un long processus. Les musiciens, emmenés par Thom Yorke, mais aussi par Johnny Greenwood, guitariste fasciné par la musique atonale et brutiste, cherchent une autre voie. Fini donc le groupe de rock enchaînant couplets et refrains. Place aux synthétiseurs, aux boîtes à rythme, aux arrangements de cordes, aux cuivres, à des ondes inouïes. Greenwood, justement, se penche sur les ondes Martenot, l'ancêtre des instruments électroniques des années 30, dont il recrée le son digital, faute d'instruments disponibles. Thom Yorke, lui, passe beaucoup de temps dans la maison qu'il s'est achetée dans les Cornouailles, les falaises, le vent. Il réfléchit à des mots à poser, songe aux phrases comme à des pièces d'un puzzle à assembler de manière aléatoire, comme un collage. Le succès d'OK Computer permet aux membres du groupe de travailler comme ils l'entendent. Les sessions d'enregistrement ont lieu à Paris en janvier 99, puis à Copenhague, dans le Gloucestershire, et puis à Oxford, leur ville, où ils se sont aménagés un vaste studio rien que pour eux. Un studio, une salle de répétition, un espace clos, reclus, où ils travaillent dans le plus grand sérieux. On n'allume la télé que pour les matchs de Manchester United. Pendant deux semaines, raconte alors Ed O'Brien aux Inrecuptibles, on s'était séparés en deux groupes, travaillant simultanément dans les deux studios de notre local. Chaque équipe bossait sur des boucles, des samples, des rythmes, puis les passait à l'autre. Nous n'avions pas le droit d'utiliser de guitare, de basse, de micro. Tout devait être créé par les synthés ou les ordinateurs. Les musiciens écoutent pendant des heures des boucles de son dont ils extraient parfois de micro-fragments, comme l'onde inquiétante d'un morceau composé en 1976 par un certain Paul Lansky. Ou bien un micro-bruit extrait d'un autre morceau publié en 76 signé du compositeur Arthur Kreiger. Posé sur le rythme frénétique d'une boîte à rythme, ces ondes glaciales servent d'écrin au texte de Thom Yorke pour un sauf qui peut apocalyptique. France Culture, Jukebox, ce soir, Radiohead et l'an 2000... Tous aux abris. Qui est dans le bunker, les femmes et les enfants d'abord? Qui est dans le bunker? L'air glaciaire approche, jetez-la au feu, jetez-la au feu. Nous ne sommes pas alarmistes, c'est réellement ce qui est en train de se passer. Les portables grésillent, les portables sonnent, prends l'argent et enfuis-toi. Ici, je suis vivant, pour toujours. Radiohead, Idiotech, sorti en octobre 2000, et écho de nos errements climatiques. Le dérèglement de la planète qui obsède alors les membres du groupe. La pochette de l'album Kid A figurera d'ailleurs l'image d'une chaîne de montagnes sur un ciel sombre, comme un paysage à la puissance cataclysmique. Ces thèmes du crash à venir, de l'intensification excessive des rapports humains, du développement de la vidéosurveillance, de la science aussi, qui semble devenir folle.
The process is as follows.
C'est un thème que l'on retrouve dans tout un tas de films de science-fiction. Au fond de son laboratoire, un vieux professeur, illuminé de préférence, fabrique des clones de l'homme idéal, des frères jumeaux à l'infini. Eh bien aujourd'hui, ça n'est presque plus un film, c'est la réalité. En Écosse, un groupe de chercheurs britanniques est parvenu à cloner pour la première fois un mammifère adulte, en l'occurrence un mouton. À partir d'une cellule d'un mouton, il est arrivé à fabriquer sa copie conforme. Ce qui pose bien sûr pas mal de questions. Cette technique sera-t-elle utilisée par les éleveurs? Est-elle dangereuse? Et surtout, est-il imaginable de cloner un jour des hommes, le meilleur des hommes ou le pire?
Un jour d'avril 1996, près d'Édimbourg, une équipe de savants fous avait donc donné naissance au premier mammifère cloné, la brebis Dolly, qui décédera 7 ans plus tard, en 2003. L'année précédente, le musicien Steve Reich avait créé Three Tales, Trois Contes, sorte d'opéra vidéo fondée sur les périls contemporains et notamment le clonage de cette brebis. Tom York s'intéresse aussi de près à ces questions et l'album Kid A, cet enfant A, pourrait se faire l'écho des périls possibles de la génétique. Même si chez le chanteur du groupe, rien n'est jamais clair. Et puis d'ailleurs, il articule de moins en moins, il devient difficilement compréhensible même aux oreilles anglophones. Quoi qu'il en soit, après un an de travail et d'enregistrement, le matériau collecté est si riche que Radiohead et son label décident d'en faire 2 albums. Quelques mois après la sortie de Kid A, en octobre 2000, ce sera donc Amnésiaque. D'amnésie, Radiohead ne veut pas entendre parler, qu'elle soit individuelle ou collective, quitte à demander des comptes aux responsables.
Come on, you and his army, you and your cronies, come on, come on, holy Roman Empire, come on if you think, come on if you think, you can take us on, you can take us on. You and his army, and your crawling.
viens là, toi et quelle armée d'ailleurs, toi et tes potes. Viens là, Saint-Empire romain, viens si tu penses que tu peux nous attaquer. Tu oublies si facilement, nous chevauchons ce soir des chevaux fantômes. You and Whose Army, Radiohead, tiré de l'album Amnesiac.
It shall be a government rooted in strong values, the values of justice and progress and community, the values that have guided me all my political life. But a government ready with the courage to embrace the new ideas necessary to make those values live again for today's world. A government of practical measures in pursuit of noble causes.
En 1997, la nomination au 10 Downing Street du travailliste Tony Blair avait mis fin à 18 années de pouvoir conservateur. Son accession chavire alors la Grande-Bretagne, faisant naître d'immenses espoirs à gauche. Tony Blair prône une troisième voie, synthèse des politiques sociales et libérales, faisant de l'éducation une priorité. Quelques années plus tard, pourtant, le constat est amer. Le petit génie britannique de la politique n'a pas fait de miracle. La politique était une question importante pour moi lorsque nous enregistrions l'album, raconte Thom Yorke. Lorsque Blair est arrivé au pouvoir, je lisais tout ce qu'on écrivait sur cette troisième voie, la manière dont Blair allait développer une relation avec les entreprises qui allaient profiter à ce pays. Ça n'allait évidemment jamais marcher, ce fut le cas. Blair, élu par le peuple, l'a ouvertement trahi. Fin de citation. On est d'accord ou pas ? Même si l'on peut et l'on doit reconnaître à Radiohead une certaine cohérence dans la mise en pratique de leur rapport de force à la marche du monde, ils veulent voir le monde changer et, à défaut, ils le changent eux-mêmes. Défiance à l'égard des politiques néolibérales s'accompagne de crispation envers l'industrie du disque, ses cadences infernales, ses mises en avant d'un titre, ses promotions matraquées. L'album Kid A, commercialisé en octobre 2000, n'est accompagné de la sortie d'aucun single ni d'aucun clip. Le groupe limite les interviews et les séances photos. À la place, Radiohead se sert d'Internet. On peut écouter l'album en ligne, les enregistrements pirates des concerts sont échangeables. À la sortie de l'album Kid A, les fans et la critique sont partagés entre nostalgiques de la période rock, ce qu'était devenu OK Computer et son lyrisme, et puis les amateurs du virage électronique. Un virage rappelé dès l'ouverture de l'album Amnesiac, avec ce morceau comparant l'humanité à des sardines dans une boîte en fer blanc. En 2003, le groupe sort Hail to the Thief, album dont pour la première fois les paroles sont imprimées sur un livret, illustration d'une certaine maturation du propos du groupe. En 2007, ils quittent EMI et fondent leur propre maison de disques. Ils révolutionnent alors la distribution musicale. In Rainbows, leur septième album studio, n'est mis en vente que sur Internet depuis leur propre site en téléchargement légal, avec la possibilité de faire le don de son choix, quitte à n'en pas faire. La suite semble leur donner raison. Radiohead gagne plus d'argent avec ce disque qu'avec tous les précédents. We'll be right back. Radiohead, Reconner, extrait de l'album In Rainbows, 2007. Les années suivantes sont plus difficiles pour le groupe qui s'enferre de plus en plus dans des recherches esthétiques interminables. « Nous avions perdu le contrôle du groupe », admettra Thom Yorke. Le chanteur se lance en solo, poursuivant néanmoins ses engagements. Il met sa notoriété au sein des causes qui lui sont chères, Amnesty International ou bien encore Friends of the Earth, les Amis de la Terre, collectif d'associations militant pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La communication de Radiohead, elle, se résume au strict minimum. Pas de présence sur les réseaux sociaux, un vide quasi complet comme un doigt d'honneur lancé à la face du monde 2.0. La gestion des affaires du groupe, elle, se fait toujours à leur manière. En juin dernier, Thom Yorke réalisait ainsi qu'il s'était fait voler 18 mini-disques renfermant les séances de travail et de maquettes de l'album OK Computer. plutôt que d'accéder à la demande de rançon exigée par le hacker, lui et les autres décidaient de mettre en vente ses 18 heures de recherche musicale, et ce pendant 18 jours, pour 18 livres sterling, les revenus étant reversés au mouvement Extinction Rebellion. Il y a un fossé entre là où nous nous rencontrons, là où je finis et là où tu commences. Je suis désolé pour nous. Les dinosaures errent sur la terre, le ciel devient vert, là où je finis et là où tu commences. Ainsi se referme ce numéro de Jukebox. Rendez-vous sur le site de France Culture pour réécouter ou télécharger cette émission. Vous y retrouverez également la possibilité d'exporter les playlists en un clic. À voir pour encore 48 heures jusqu'au 6 janvier, en ligne sur le site d'Arte, le film Le Monde selon Radiohead, réalisé par Benjamin Clavel. Jukebox, une émission préparée avec Antoine Villos de la discothèque, Vincent Frémaux à la bibliothèque et Marie Chauveau à l'INA. À la technique ce soir, c'était Philippe Mercher, Agnès Catou à la réalisation, au micro à Maurice Chardot. Bon début d'année et à samedi 19h pour un prochain Jukebox.
you alive, I will eat you alive.